Across USA, plucked her eyebrows on the way. Et bienvenue sur Wildside 89.4 Radio Libertaire en ce jour chaud, en ce jour à Paris ensoleillé. Et aujourd'hui, eh bien, on va avoir quelques petites interviews pour commencer cette émission, la suite des interviews que j'avais passées déjà le mois dernier, qui datait donc du concert qui s'était passé il y a deux mois à Cartilage, le concert avec l'association Les Murs Fondent. Et donc les groupes de qui on va écouter les interviews sont deux groupes que j'ai trouvé bien fort sympathique et fort intéressant. Il s'agit de Douchy et de Hegengrau, donc des groupes parisiens, des petits groupes parisiens qui sont en train de gagner en popularité dans la scène indépendante. Donc on va s'écouter tout de suite ces petites interviews et on se retrouve juste derrière sur 89.4 Radio Libertaire. Allez, à tout de suite.
Et bah déjà, merci beaucoup d'être venu. Est-ce qu'on peut présenter un petit peu le groupe rapidement?
Oui.
Trop bien, et bah c'est Tipa.
Alors Hegengrau, du coup, c'est un groupe de rock psychédélique.
Yes.
Voilà, qui existe depuis 3 ans, voilà, parce que j'oublie à chaque fois.
Ok.
Et qui a sorti un album, un EP, pardon, que dis-je, en 2025.
Ouais.
Le débat est ouvert. Mais, on a d'autres surprises à venir, mais je ne sais pas si je peux en parler là maintenant.
Ah, des fois, c'est bien de juste teaser, mais
ouais,
de pas aller
tease.
Plus loin. C'est pas mal.
Il y a des trucs
mal.
Qui arrivent.
Alors, à la base, comment s'est créé le groupe? C'était l'initiative de quelqu'un en particulier ou
Allez, va. Oui, c'était mon initiative. Ouais. Moi, je suis le guitariste. Et okay. Du coup, on va dire compositeur principal sur les morceaux.
Ok.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de démarrer ce groupe?
C'est réponse bateau, mais l'amour de la musique. Voilà. L'amour du psyché.
C'est une très bonne réponse.
Voilà. voilà
Et si on peut parler alors un petit peu d'influence, peut-être, pour un peu contextualiser le groupe,
ouais.
qu'est-ce qui t'inspire
On va dire l'inspiration principale pour Hegengrau, ça va être du côté des groupes comme King Gizzard.
Ouais.
Ça, j'ai bien entendu. Sea Oasis. Slift aussi. Grosse okay. influence Slift dans la scène française.
Alors, voilà. on parle de King Gizzard, pour le coup, c'est un groupe qui. Bossent beaucoup en improvisation, sur le coup, qui sortent leurs trucs, qui imaginent des trucs en répète et tout. Est-ce que c'est votre manière de bosser aussi ou c'est un petit peu plus textuel, on bosse un peu chacun de notre côté
Je réponds. On va dire que la manière dont on processe, c'est qu'on essaye de faire un peu des deux.
Ouais.
Bon, on va dire que des fois, je vais proposer des compos, on va les taffer. Mmh. Et on va essayer de travailler aussi en jam, d'essayer d'apporter des idées, de faire des petits allers-retours comme ça.
Okay.
Et aussi, ce qui nous fait kiffer, c'est d'intégrer des jams dans des morceaux.
Ouais.
C'est-à-dire, ok, tel moment, c'est une jam et,
okay.
et on jam pendant 10 minutes.
Donc, il y a une idée quand même d'improvisation qui est assez présente. Il y a une idée d'improvisation qui est assez présente, quand
ouais.
même, dans le groupe. Ça se passe comment, les répétitions, avec le groupe?
Des répétitions?
Ouais.
Il veut le micro.
C'est-à-dire, ça se passe comment?
Quelle ambiance? Comment est-ce que ça se développe musicalement? Est-ce que les idées de scène partent des répètes? Est-ce que l'énergie de scène aussi naît plutôt dans cet endroit-là? Ou est-ce que la musique est imaginée à la base pendant la création, justement, pour la scène? Ou est-ce que ça se développe au moment de tous se rassembler, quoi?
En fait, ça, je pense qu'on a changé un peu. Enfin, ça a un peu traversé tout ce genre de process. C'est vrai qu'au début, les premiers morceaux, nous, on était assez pressés de faire de la scène.
Ouais.
Et du coup, on a sorti les premiers morceaux qui sont sur Citrus Spells.
Qui est le pays,
ont été pensés, ouais. Exactement. Ouais. Et en fait, ont été pensés beaucoup pour être joués en live assez le plus rapidement possible, quoi.
Ok.
Et on les a fait se suivre justement pour faire des enchaînements sur scène. En fait, ça s'est fait comme ça.
Ouais.
Et là, vu qu'on intègre de nouveaux morceaux, je dirais que c'est un peu plus différent. En fait, c'est un peu en train d'évoluer aussi la façon de travailler, quoi.
Et ça va dans quelle direction le groupe actuellement?
Là, on a du coup des nouveaux morceaux qu'on joue sur scène pour le coup.
Ouais.
Dont un qui a été. Qui de base était même juste une jam entière, en fait.
Okay.
Enfin, il y avait une sorte de base, mais. Donc on a que.
Il y a des influences un peu prog alors dans l'idée de.
Ah oui, totalement. Ce bonhomme là est fanatique de prog.
Ok.
On aime tous un peu ça à ouais. différents degrés, mais.
Ouais, parce que j'allais dire, ça se rassemble un petit peu niveau inspiration musicale parmi tout le groupe, ou est-ce que vous avez parfois des divergences qui créent du coup un mix un peu intéressant?
Tu vois, quelqu'un veut répondre?
Bah, en fait, je dirais qu'on a une base de quelques groupes assez solides qu'on écoute vraiment tous beaucoup. Comme disait Mathéo, c'était King Gizzard aussi et Slift. Et au-delà de ça, après, on a tous un peu des petites préférences, des trucs plus modernes, des trucs plus vintage, des trucs
okay.
parfois plus métal, plus classiques.
Il y a un truc moi que je trouve toujours assez incroyable, c'est qu'il y a certains groupes qui ont parfois, il y a des membres qui font partie de la composition qui ont des influences complètement autres. Pas forcément des influences, mais des groupes qu'ils aiment ou des artistes qu'ils aiment qui sont complètement différents. Ça vous arrive des fois de flasher sur un artiste qui n'a rien à voir avec ce que vous faites et de réussir à le bifurquer vers la composition ou pas?
L'exemple typique, c'est le jazz, par exemple.
Ouais.
En fait, le jazz, c'est intéressant parce que c'est un genre qui est très riche.
Ouais.
Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent du jazz, mais pas forcément pour reproduire ça, pour reproduire plutôt les techniques ou on va dire sur quoi ça va, ce côté justement jam, ce côté un peu thème, etc., qui revient.
Okay.
Donc, c'est plus sur ce côté-là, c'est plus d'aller chercher la richesse, du coup, le côté prog, en fait.
Ouais.
D'aller chercher la richesse dans d'autres styles et de le ramener à soi, comme ça, en mode.
Ok.
Truc marrant.
Et alors, on parle de musique, mais parlons aussi un petit peu de paroles. Quels sont les thèmes du groupe?
La drogue.
C'était pas compliqué à deviner.
Ouais, ouais. Oh, ouais. En vrai, le premier EP, il parlait surtout ça, surtout Time Bender's Underpass. Ça parle littéralement d'une prise d'acide en creuse.
Okay.
C'était banger. Hein. Ouais. C'était chaud et tout. Il y avait un max de musique. Bref. Ouais. Et c'était un peu ce truc-là. Après, je parle toujours de trucs trippants. Les derniers morceaux, c'était une sorte de reconnexion un peu à la nature, à la forêt. Ouais. Et Equinox, qu'on a joué, c'était aussi les thèmes liés à l'inspiration, littéralement au fait de créer tout ça.
Ok. C'est quelque chose qui vient après la musique ou c'est un procédé qui se mélange
C'est plutôt après les paroles, c'est plutôt quelque chose dans la composition qu'on pose un peu en dernier.
Ok.
C'est pour l'instant pas trop un truc à partir duquel on part de composition, quoi.
Ok, je vois. Est-ce que c'est un effet où en fait la musique un peu t'inspire des thèmes? C'est toi qui écris les paroles du coup pour le groupe?
Pas que, mais principalement, ouais.
Ok. Souvent,
de là.
Ok, et est-ce que donc cette musique que vous faites, comme les paroles souvent s'en inspirent, c'est ça qui inspire les thèmes? Tu parles de la drogue, c'est vrai que dans le prog, dans le psyché, tout ça, évidemment, c'est
évidemment.
Un peu classique, donc du coup, ça en ressort de ça naturellement, c'est la musique qui t'inspire dans les paroles que t'écris?
Ouais, en fait, après, on peut lier ça à tout, comme je t'ai dit, par exemple, littéralement, la reconnexion à la nature, en vrai, avec ou sans drogue, c'est un truc qui parle à tout le monde. Donc en fait, finalement, à la fin, t'écris là-dessus et tu te dis genre, ah, c'est marrant, et en fait, tu te rends compte qu'avec ou sans drogue, c'est des trucs quand même assez universels qui touchent tous.
Ça c'est une volonté de faire quelque chose de plutôt universel ou c'est juste naturellement ça vient?
C'est vraiment très naturellement c'est ouais.
Ok.
Je pense pas qu'on se tord l'esprit sur les paroles. Ouais. Pas tant que ça vraiment. On est nous. voilà, on les noie dans la réverb, on fait t'inquiète, on raconte des trucs stylés derrière, ouais, t'entends ouais. juste pas. Mais...
Bah ça, alors pour le coup, l'histoire d'un peu noyer les paroles dans la réverb, c'est que donc il y a un aspect aussi très musical à ces paroles, donc peut-être parfois plus que narratif ou littéraire. Est-ce qu'il y a cette idée de créer
Bah la langue anglaise là-dessus, je la trouve hyper intéressante parce que beaucoup plus musicale. Le français c'est vachement plus à texte, ouais. Là où l'anglais t'as un truc où tu vois vraiment les voyelles comme les ta mélodie et toutes les consonnes, c'est tout ce qui va poser la rythmique, ouais. Et là-dessus du coup l'anglais ça marche très très bien pour faire des trucs très musicales,
plus fluide peut-être,
ouais, c'est ça. Il y a plein de musique qui marche trop bien avec des paroles débiles et on s'en fout quoi.
Donc c'était une volonté de choisir l'anglais à la base, ça n'a jamais été autrement et...
ouais, c'est ça, l'idée est venue quand même à un moment de peut-être faire un truc en français, mais c'est vu que c'est pas nos influences non plus, tu vois.
Oui, ok, ouais, je comprends.
L'idée est là toujours, hein, de faire des trucs en français, mais pareil, peut-être sur juste l'aspect musical, dans le sens de tordre les mots pour que ce soit plus musical que narratif.
Ouais, bah c'est super intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de groupes qui se rassemblent là-dessus, en effet, l'anglais. C'est hyper fluide pour ça. Et quand, en fait, vous parlez de vos influences, c'est surtout ce genre de groupe. Vous êtes un petit peu quand même lié à la scène psyché prog française. Vous avez quelques petits groupes que vous connaissez pas mal, avec qui vous tournez un peu.
Il y en a qu'on a croisés par-ci, par-là. Je vais répondre parce que...
Ouais.
Je pense que j'ai la mémoire pour ça. Il y a Gu à Bordeaux avec qui on a fait un co-plateau au Supersonic, qui sont super sympas. Tout ça, on les a fait recroiser quand on allait voir un concert là-bas et on espère pouvoir.
Et vous sentez une certaine connivence, un certain aspect communautaire avec ces groupes-là qui sont.
Bah pour l'instant pas trop, même si récemment on avait fait un coplateau au Havre où j'avais invité enfin où j'avais proposé à Kindergarten Odyssey, groupe de psyché de Rouen, de venir avec nous, et là après eux ils nous ont aidé à être programmés aux trois pièces, ouais. À Rouen, donc à ce niveau-là, enfin c'est à cette échelle-là en tout cas, il y a cette liaison qui s'est créée. Il y a aussi Feu, un groupe qui s'appelle Stronger Than Arnold, que je recommande vivement, mais qui n'existe plus malheureusement. Mais pour l'instant, on n'a pas senti de. Parce que c'est quand même, j'ai l'impression, une scène assez éparpillée,
ouais.
Pour l'instant, et en tout cas, surtout à Paris, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup, une belle scène à Bordeaux, peut-être à Toulouse aussi, mais la capitale, c'est un peu.
C'est
un peu plus compliqué de se réunir pour des plateaux psychés, vraiment psychés.
Ok. Après, c'est vous êtes plutôt basé à Paris, hein, de ce que je comprends. Ça, ouais. Ouais. C'est une scène à développer aussi. Je pense qu'il y a pas mal, à faire dedans.
Ah oui, grave.
Et c'est super intéressant ce que vous faites. Il y a une énergie que je trouve assez ouf sur scène. J'ai noté notamment la cloche des morceaux. C'est vrai que ça marche super bien. Comment ça vient ce genre d'idée?
Oui, je crois que c'était moi qui avais eu l'idée sur la démo. Ouais. C'est côté un peu goofy, un peu marrant, en mode y a une percussion à ce moment-là.
Mais je trouve que. Attends, deux petites secondes. Mais c'est super, enfin, genre j'aime beaucoup cette espèce de. Tu vois, d'expression artistique qui est très. Tu vois, enfin, je veux dire, ça fonctionne, donc on le fait. Ou tu vois, inversement, ça nous fait marrer, on le fait. Je pense qu'il y a ça communique pas mal. J'ai l'impression, ça, c'est un truc qui communique pas mal avec le public. Et c'est un truc que dans le groupe que vous cultivez, ce truc de dire, enfin, on est là pour faire de la musique, pour s'amuser. On est là avant tout pour essayer de sortir un truc un peu. Un truc qui sort de nous, un truc viscéral et, ouais. Et pas forcément très technique, très compliqué, etc. Tout, parce que tu parlais de jazz quand même, mais pour autant, moi j'ai senti dans le concert que c'était très organique comme communication avec le public, quoi. C'est quelque chose que vous sentez.
C'est quelque chose qu'on essaye d'attraper, ouais. En tout cas. C'est toujours un peu compliqué quand on assume de faire un genre qui hérite du prog,
ouais.
Où on parle quand même d'une culture de morceaux de 20 minutes assez orchestrale, assez symphonique, assez compliqué, qui ne sont pas forcément très communicatifs avec un public. On ne va pas pogoter sur du Genesis ou du Yes, par exemple.
Ouais.
Mais ça, c'est très marrant. Donc, c'est toujours un défi. C'est pour ça que, par exemple, des groupes comme King Gizzard nous ont beaucoup influencés. C'est parce que King Gizzard, ils ont vraiment ce côté où ils vont venir chercher de la complexité et en même temps d'aller chercher ce truc avec le public un peu plus brut, un peu plus simple, en fait.
C'est clair.
Et c'est toujours le défi de faire du prog.
Oui.
Mais en n'ayant pas l'impression que c'est du prog et que c'est entraînant quand même. C'est toujours un entre-deux à trouver.
C'est clair. Moi, je trouve que King Gizzard, c'est un super exemple parce que, bon, déjà, les gars font de la musique depuis 6-7 ans et ils ont 26 albums à leur discographie. Ils ont vraiment un truc où l'idée, c'est genre faire de la musique. juste, faut sortir de la musique, quoi. Faut pas se prendre la tête. Il faut sortir de la musique et tout ce qui compte. Et c'est vrai que je pense que ça, ouais, ça marche pas mal. Bah, en tout cas, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a un morceau qu'on peut s'écouter, un morceau que vous pensez qui vous définit ou que vous voudriez nous faire écouter? Oui.
Underpass, ouais, Underpass, le deuxième morceau du coup de notre EP qui est sorti l'année dernière, okay. Représente assez bien Timebenders Underpass.
Timebenders Underpass, et ben voilà. On va s'écouter ça, et en tout cas merci beaucoup d'avoir été là, et c'était super.
Super, merci à toi.
Yes. Et ben pour commencer, merci beaucoup d'être venu, Douchi Douchi. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu et parler vite fait de comment le groupe s'est vu à naître, comment le groupe s'est créé?
Alors oui, Douchi Douchi. En fait, techniquement, le nom c'est Douchi, mais on laisse l'utilisation aux personnes. Donc en gros, on n'est pas partisans de l'académie où il y a un terme figé, c'est chacun fait ce qu'il veut.
Okay.
Pour l'idée, Douchi Douchi, c'est un groupe qui est né un peu du désespoir, dans le sens où on devait avoir un festival qu'on devait faire ensemble avec notre précédent groupe. Et résultat, en fait, la plupart des membres n'étaient pas dispo. Et on avait vraiment, vraiment envie de le faire.
Okay.
En plus, des festivals de musique traditionnelle où les gars, ils commençaient à faire des danses traditionnelles, un peu comme dans les bals musettes et tout.
Ah ouais, et si, on fait ça un petit peu. Trop bien.
Dans une grange et tout, avec des...
Ah génial.
Des didgeridoo, des
accordéons. Vous vous rappelez du nom du festival ou pas?
C'était pas tout à fait un festival, c'était l'anniversaire d'une pote.
Et là, ah ouais.
Ils étaient deux, ils avaient invité un masse de monde, on était genre... au moins une centaine. Il n'y avait que des icônes, des danseurs, des artistes.
Ok, super.
C'était une vraie ambiance.
Trop stylé.
Et en gros, on s'est dit, on va jouer ça. Donc, on s'est dit, on le fait quand même. On a composé un set en un mois, à peu près. Loulou, il avait vraiment envie, du coup, de faire de la percussion. Donc, on s'est dit, on part à deux. Au lieu de faire un gros complet, on part à deux. Je m'achète un pédalier basse orgue. J'aurai les basses avec les pieds. Je fais de la guitare. Loulou, pareil. Il est sur le caron, on amplifie le tout et on fait un truc sale mais en format minimal.
Bah alors justement cette portabilité un petit peu le groupe, moi je trouve ça super stylé le fait que c'est guitare acoustique qui est reliée à la sono. Ça vous a peut-être permis de jouer dans des endroits un petit peu plus random que d'avoir une full formation, non?
En fait, de manière générale, c'est sur les salles parisiennes, par exemple, c'est une idée un peu à la con, mine de rien.
Ouais.
Parce que, en général, la batterie est déjà sur place. Nous, on est obligés de ramener notre percu.
C'est vrai.
Donc, en fait, c'est marrant pour jouer un peu en nomade. Pour faire en sorte que, dès qu'il y a un concert et on doit ramener notre matos, ça, on peut le faire en deux secondes. On ramène nos amplis, nos trucs. Et en général, ça tient dans une caisse. Donc, on part à deux et dans la caisse et c'est direct, assez rapide.
Okay.
Après, pour le reste, c'est plus des galères qu'autre chose.
Ouais, mais après, alors le concept est pas mal. À la base, donc, c'est né d'un plus ou moins, donc d'un autre groupe qui n'a pas pu participer. Est-ce que vous avez récupéré des choses musicalement de cet autre groupe? Est-ce que ça, on est dans une ressemblance un petit peu, ou est-ce que vous avez pris un chemin complètement différent?
Je pense qu'il y a forcément des ressemblances parce que dans le sens où la seule personne qui fait de la mélodie, c'est le guitariste chanteur. Et du coup, il était déjà très présent sur le groupe d'avant.
Okay.
Et là, du coup, il y a une patte. Après. Le style a quand même drastiquement changé. On est plus sur un son qui, de base, peut être acoustique, mais qui en même temps peut être amplifié, aller jusqu'à du très très crade.
Okay.
Donc ça a quand même pas mal changé. Et ça a pas mal changé dans le sens aussi où c'est pas une batterie qui suit. C'est, moi, je suis bassiste en fait. Je suis pas percussionniste.
Okay.
Et du coup, je me suis improvisé à être percussionniste comme ça. Je kiffe. Et du coup, on est plutôt sur quelque chose d'autre, quoi, grâce à ça aussi.
Ouais.
Du coup, j'ai une approche qui n'est pas du tout une approche de batteur de la percussion. J'ai jamais pris de cours de batterie ou de percu. Donc, c'est juste, je pense que ça change pas mal aussi là-dessus.
La dynamique. C'est clair, la dynamique doit être assez intéressante là-dessus. Bon, même si je pense que dans la basse, il y a quand même une idée rythmique qu'on peut retrouver.
Ouais, bien sûr.
On peut trouver dans la percu. Du coup, si on devait un petit peu définir le style, peut-être en parlant d'inspiration ou alors simplement le définissant avec des mots, comment est-ce qu'on pourrait définir Douchi?
C'est du grunge stoner de loser.
Ok. la particule de loser est très importante.
Non, mais il y a le côté un peu où c'est très artisanal.
Ouais.
L'idée, c'est de faire le maximum de bruit avec le minimum, donc d'avoir un caron. D'ailleurs, Caron homemade. Hein.
C'est vrai?
C'est moi qui l'ai fait, j'étais menuisier avant.
Ah ouais? Putain, méga stylé ça!
Et après, les guitares acoustiques et d'avoir toute une DA autour, un peu un espèce d'idéal américain crado qui transparaît. Donc nous, on a toute cette idée stoner, grunge du Bayou.
Ouais.
Et donc, du coup, effectivement, les inspirations sont là-dedans. Pour que ce soit un peu dynamique, on est obligé de jouer beaucoup plus vite que dans le stoner habituel. Mais il y a toujours ce truc-là, les guitares saturées, les accords très plaqués, un truc. Con et rythmique.
Ouais, ça je le ressens très fort parce que moi-même c'est une esthétique que j'adore absolument, le truc du fin fond des États-Unis, un petit peu roots, un petit peu dégueu, un petit peu crade. Tu as donné l'adjectif loser un petit peu dans les paroles, toi qui écris. De quoi ça parle un petit peu au morceau?
De manière générale, il y a toute la musique de Douchy, elle parle de déclassement en partie.
Ouais.
Il faut savoir notre emblème du coup qu'on a choisi récemment, c'était en sortant de répète, en fait, on a vu un pauvre pigeon, mais dans un état, mais déglingué le pigeon.
En fin de vie.
Okay. En fin de vie, et on trouvait ça un peu beau, et en même temps, il y avait quelque chose de... Le pigeon, c'est notre animal, c'est un animal de compagnie qu'on a eu pendant genre 500 ans, 1000 ans.
Ouais.
Et on l'a laissé, et maintenant les gens ils méprisent le pigeon, ils l'appellent rat désert et tout, alors qu'en fait c'est un putain d'animal trop mignon.
De fou.
Et autant on n'avait pas une passion pour les pigeons particulière, mais finalement beaucoup de choses sont venues de là, et on a une des chansons qui s'appelle Sainte Marguerite, qui parle d'une sainte espagnole, si je ne me trompe pas. Et on a composé les paroles un peu de manière random, parce que c'était la Sainte Marguerite ce jour-là. Okay. On a découvert cette page sur Wikipédia, on s'est fait, on va faire la chanson là-dessus, parce que la meuf elle est... Bah tiens, je raconte l'histoire de Sainte Marguerite.
Ça fait un tunnel sur Sainte Marguerite.
Ouais, bah, en début, quand on la joue, en général, on fait la petite intro qui va bien pour expliquer un peu tout ça. Et c'est vrai que dans l'idée un peu de vie dure, d'échec, de déclassement et tout ça, Sainte Marguerite, en fait, c'était le jour de la Sainte Marguerite. Et sur un coup de temps, on s'est dit, ah, bah, pourquoi on ne ferait pas une chanson sur Sainte Marguerite ? On ne sait pas c'est qui, on voit la Sainte Marguerite de base, on se dit, bah, c'est vraiment éclaté au sol, en fait, on ne va pas faire ça. Et du coup, on va chiner plus loin dans la page de Wiki, et on voit qu'en fait, les saints, il y a plusieurs saints, et puis on va tout en bas de la page, on voit Sainte Marguerite di Castello. Et là, tu lis la page Wiki et tu te dis, oh merde, c'est chaud pour elle, quoi.
Ah ouais.
Vraiment, elle est née laide, difforme, aveugle, naine. Enfin, il y a tellement d'adjectifs que tu te dis, mais là, la vie, c'est chaud, quoi.
Ouais.
Et ça commence hardcore pour elle. Et du coup, elle commence à se lancer dans la religion et tout. Elle est même reniée des siens de la religion, alors qu'elle fait tout pour. Et vraiment, t'es en mode, mais attends, mais c'est quoi cette vie, quoi. Et du coup, ça nous a fait triper de continuer un peu là-dedans, dans le délire... dans le délire de l'échec complet, quoi, alors que finalement elle est quand même répertoriée dans les saintes de Sainte Marguerite, quoi.
Ouais.
Et voilà, c'était un peu le...
Ah bah c'est, c'est super, il y a un petit peu, t'as exploré d'autres thèmes comme ça
La première chanson, ça parle d'un conducteur de BMW.
Ok.
Juste parce que ça nous faisait marrer.
C'est marrant parce qu'il y a l'air d'avoir un aspect politique très populaire, mais qui à la fois n'est pas forcément... De premier abord, tu vois, qui est là parce qu'il y est, mais pas forcément voulu, quoi.
Ouais, c'est plus une conséquence que, qu'une volonté en soi. C'est-à-dire que, en gros, tu prends un thème que le conducteur de BMW, ok, tu peux être femme de BMW si tu veux, mais l'idée, c'est que de manière générale, c'est un gros con. Donc ça rebat des choses en termes de catégorie sociale. Donc forcément, politiquement, ça a toujours un message. Quand tu fais une chanson, on a une chanson la dernière, ça s'appelle Douchy. Ça parle du fait de boire trop pour s'oublier, techniquement, mais de manière hyper festive, un peu comme les ricains, quoi. Mais en fait, ce LR, il a un sens politique en un sens, parce que c'est vraiment les gars. Mais frérot, t'as pas de sécurité sociale. Genre, pourquoi tu te comportes comme si t'en avais une?
Tu fais une crise du foie, t'es dans la merde, tout simplement.
T'es foutu.
Ouais, ok. Eh ben, écoute, super. S'il y avait un morceau que je devais passer de vous, lequel est-ce que je pourrais passer? Ah, c'est la grande question, ça. C'est toujours dur de répondre.
Bah, surtout qu'on a encore rien enregistré, donc pour le coup.
On a une live session, quoi.
On a une live session qui sort bientôt, c'est vrai. Brandon Cousin.
Brandon Cousin. On tourne encore sur le thème américain avec Brandon.
Non, bah, là, pour le coup, ça vient d'un mème, ensuite d'une blague, ensuite du challenge du Seigneur. Tu connais une C15. Tu vois ce que c'est, la C15 ou pas? La voiture, la C15.
La C15 ?
Une C15.
Une C15, c'est une Citroën, ça ?
C'est une Citroën C15.
Je crois que je vois ce que c'est.
C'est une voiture de campagnard. Et il y a un challenge qui consiste à faire une marche arrière sur une botte de foin et d'arriver à se mettre en haut de la botte de foin.
Okay.
Donc on est dans le contexte de la débilité profonde.
Ouais.
Et on a décidé de faire une chanson là-dessus parce que déjà, ça nous faisait beaucoup rire.
Ouais.
Et juste pour ça, en fait. J'ai pas d'autre.
J'ai l'impression que c'est un petit peu. Il y a un peu un thème là qui revient souvent, c'est que la musique est faite pour être légère, quoi. Parce que ça vous fait marrer, parce que. Quand on parle là de la C15, on parle de ça. Quand tu parles du conducteur de BMW aussi. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de présenter les choses avec une certaine ironie et puis une certaine drôlerie, quoi, entre guillemets. C'est un truc qui vous parle.
Oh, ça nous parle carrément, ouais. C'est même Brandon Cousin, typiquement, c'est, je pense que c'est celle qui nous a mis le plus dans le délire.
Ouais.
Et donc, ça part, comme tu dis, d'un mème. Et j'avoue que moi, il y a aussi le côté, quand tu écoutes Primus, clairement, il fait l'apologie aussi de ça, quoi, avec John the Fisherman et compagnie. En fait, il raconte l'histoire de mec, mais lambda de fou, quoi. Et c'est, je trouve ça hyper intéressant de parler un peu de tout ça, tu vois. Okay. Du coup, ça se ressent aussi un peu dans la musique, en mode, la plupart des trucs, on les a écrits. Mais en même temps, il y a grave de place à mettre des breaks, des petites impros, des trucs comme ça. Dès qu'on joue, en fait, nos sets, c'est... il y a une grosse trame, mais le reste, on a aussi grave de place à la liberté, à se laisser s'exprimer, à se... en fonction du moment, si on est chaud, on met plein de breaks, si on est moins chaud, machin. Et c'est...
Donc, du coup, il y a de l'impro dans vos sets.
Il y a une partie d'impro, ouais.
Ok, ouais. Ça se développe comment sur le coup? C'est quelque chose que vous avez entre vous? C'est une habitude que vous avez entre vous? C'est quelque chose qui se travaille un peu avant?
Je pense que le fait d'avoir vécu un groupe avant, pendant pas mal d'années, ça fait que Quentin, si on se regarde, c'est pour ça qu'on joue à 45 aussi, pour avoir un petit regard l'un sur l'autre. Le simple fait de se regarder, ça nous arrive plus qu'une fois de se dire des trucs pas prévus et bam, ça arrive d'un coup.
Okay.
Et tous les deux en même temps, on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi, ou des breaks entiers tous les deux. Enfin, on est en mode, il y a plein de trucs qui nous tombent dessus aussi et c'est hyper cool, mais on l'a développé, je pense, parce que ça fait beaucoup d'années. Là, je sais pas combien ça fait d'années qu'on joue ensemble, mais j'ai appris la musique avec Quentin aussi. Donc
ça remonte. Hein.
Je suis bassiste avant, mais en même temps, là, être percussionniste, je comprends. Je me doute de ce qu'il va faire, quoi. Je suis en mode, je le sens.
Et ça, c'est l'improvisation, c'est un truc qui pourrait s'exporter peut-être dans des enregistrements. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez faire, ou pour l'instant, c'est du live exclusivement et puis ça viendra plus tard.
En vrai, on a largement de quoi faire un EP, je pense. Si on s'y... En plus, l'avantage, c'est que c'est un super exercice pour être bien carré et définir des parties. Donc, mine de rien, on va... Mais là, à court terme, peut-être.
Ok. Donc vraiment. À suivre.
À suivre.
Merci beaucoup encore une fois d'être venu et puis à la prochaine. Yes.
Et donc voilà, c'était l'interview de Douchy sur Radio Liberté 89.4, l'émission Wildside bien sûr. Donc on va enchaîner avec la petite sélection musicale de ce mois-ci. Et ce mois-ci, j'ai décidé de me pencher sur un micro-genre, un micro-mouvement qui est apparu dans les années 2010, en tout cas autour des années 2010, dans la scène du post-hardcore. Très spécifiquement, et oui, en ce moment je suis un petit peu orienté hardcore, c'était déjà comme ça le mois dernier, bien ce sera comme ça ce mois aussi. Et on va parler de groupes qui m'ont beaucoup marqué et que je trouve très intéressant pour ce qu'ils représentent en fait dans le paysage musical des années 2010 et dans la manière dont ils ont influencé énormément d'artistes d'aujourd'hui. Et on va commencer avec La Dispute, un petit morceau de La Dispute, voilà. Sur peut-être mon album de post-hardcore préféré. Je pense que cet album est très très intéressant parce qu'il propose énormément de choses différentes. Tous les morceaux sont très très complexes, très chiadés. Voilà quelques autres que moi j'aime beaucoup. Et on va s'écouter un morceau que j'avais découvert quand j'étais encore adolescent, qui s'appelle Set the King to the River, sur l'album Somewhere at the Bottom of the River Between Vega and Alter. Un petit peu long, mais en tout cas c'est le troisième album de La Dispute. Et donc ce deuxième morceau, j'ai découvert quand j'étais très jeune, quand je ne savais pas exactement ce que c'était que le post-hardcore, mais je savais juste que ces sonorités en tout cas m'interpellaient énormément. Donc on va s'écouter ça, et juste après je vous parle de ce micro-genre qui consiste de 5 groupes qui ont un petit peu changé la musique alternative en leur temps. On se retrouve juste après sur Radio Libertaire.
Your home. still cross my mind from time to time, and I mostly smile. Still so set in finding out where we went wrong and why. So I retrace our every step with an unsure pen. Try to figure out what my head thinks, but my head just ain't what it used to be. And then again, what's the point anyway? I remember you ascending all the stairs up to the balcony to see if you could see me quietly away. I remember the skin of your face.
La dispute sur Wildside. Donc voilà, ce groupe en fait qui fait partie donc de ce micro-mouvement dont je parlais. Alors ce micro-mouvement, ça s'appelle The Wave, qui est l'abréviation de The New Wave of Post-Hardcore. Et en fait, c'est tout un ensemble de groupes, c'est 5 groupes très précisément, dont La Dispute font partie, qui ont décidé, ont constaté que le post-hardcore et le screamo de manière générale commençait à devenir trop commercial. Et du coup, on décidait un petit peu de créer quelque chose de plus sincère, de plus brut. On entend un petit peu la voix écorchée à vif du chanteur de La Dispute. Je pense que c'est un des aspects qui me plaît énormément. Le premier aspect qui me plaît énormément dans La Dispute, c'est cette voix. Et on remarquera qu'à travers The Wave, tous les cinq groupes de The Wave, eh bien, c'est un truc qui se rassemble un petit peu, cette voix un petit peu écorchée, voilà, cette voix très... très dur, très brut, quoi. Et pour le coup, musicalement, La Dispute diffère un tout petit peu du reste des groupes qui font partie de ce collectif informel, puisque La Dispute sont très très inspirés de Matrock. Alors, le matrock, en fait, tout simplement, c'est un type de rock qui tire ses racines, notamment rythmiques et techniques, plutôt dans le jazz. On parle de matrock en rapport aux mathématiques, puisque c'est souvent des morceaux avec des signatures rythmiques qui ne sont pas traditionnelles. Également des phrasés mélodiques, hein, qui sont aussi un petit peu plus complexes et plus mathématiques qu'on peut l'entendre en temps normal. Et pour le coup, La Dispute, bien qu'il se place complètement dans le post-hardcore, on l'entend avec cette force, cette agressivité, il y a ce côté matrock, voilà, où c'est quand même assez complexe dans la manière qu'ils ont de traiter leurs morceaux. Et surtout, on n'a pas trop tendance à avoir cet effet couplet-refrain. Donc c'est encore un aspect où les membres, chaque groupe de membres de The Wave dans les années 2010, eh bien, ont décidé que c'était trop conventionnel d'avoir du couplet-refrain, ont décidé de partir dans un quelque chose de plus libre dans la forme. Donc voilà, le dernier morceau que je voudrais passer de La Dispute avant de passer au groupe d'après, qui faisait partie de The Wave, c'est un morceau qui s'appelle The Last Lost Continent. C'est un morceau de 12 minutes qui à ce point-là est presque dans le rock progressif, mais qui, je trouve, souligne très bien un petit peu toutes ces particularités qui font ce super groupe La Dispute. Et juste derrière ça, on va s'enchaîner avec un morceau d'un autre groupe, donc de The Wave, qui s'appelle Defeater, qui eux, pour le coup, sont beaucoup plus dans un style un petit peu différent, qui s'appelle le mélodique hardcore, mais j'en parle un peu plus après, pour l'instant je tease, mais on va surtout s'écouter La Dispute et ce fantastique morceau avec cette montée formidable, The Last Lost Continent sur Wildside Radio Libertaire.
Brush against my arm as I walked by you. Heard your voice, but couldn't tell that it was you. And slowly watched your sickness slip away into a place that I'd once feared, but I was not afraid this time. So I gave chase and found it finally, slowly feeding from your head and from my friends and from my family. So I grabbed it by the neck. For every lover you have ruined, I dug my nails into its flesh, and every life that you have taken, slammed its head against the brick. Its blood poured out onto the pavement. I stirred it in with dirt and spit. I will take a part of you. I made mortar from the mix. For every
place to rest when everything you had is turned and left.
Voilà, La Dispute avec The Last Lost Continent, ce morceau formidable. Alors un autre point que je n'ai pas cité sur La Dispute, c'est que c'est très très poétique. Alors c'est en anglais malheureusement, mais si vous comprenez l'anglais ou si vous avez accès à des outils de traduction, ça vaut le coup de se pencher dessus, parce que je trouve vraiment que le chanteur écrit très 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 bien. C'est très 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 beau et très poétique. Enfin, c'est très imagé, c'est très littéraire comme manière de parler, de chanter. Et pour le coup, ça correspond, je trouve, extrêmement bien à cette musique qui ne mérite que les plus belles paroles pour sublimer un petit peu ce côté technique, voilà, qui fait tout l'intérêt de La Dispute. Le groupe d'après, c'est Defeater. Alors Defeater, eux, pour le coup, font partie d'un mouvement qui s'appelle le Melodic Hardcore. Alors le hardcore à la base, eh bien, c'est le punk hardcore, hein, c'est la branche du punk qui considérait que le punk était devenu trop commercial, et le hardcore en fait décide de faire du punk plus vite, plus fort et plus violemment. Et le Melodic Hardcore rajoute, eh bien, comme son nom le laisse deviner, beaucoup de mélodies là-dedans. Donc on a toujours le côté très brutal du hardcore, mais on a aussi un côté beaucoup plus sentimental qui est assez intéressant. Alors pour le coup, on touche, en parlant justement d'un côté sentimental, on touche à l'une des parties les plus importantes de The Wave, ce micro-genre dont je parle, puisque le côté sentimental est quelque chose qui a énormément influencé une scène qui avait un petit peu disparu depuis quelques temps, qui était la scène emo. Et en fait, il faut savoir que la scène emo, donc, qui est tirée du terme emotional hardcore, un peu, on va dire, un cousin du melodic hardcore, le hardcore émotionnel. En fait, l'emo, donc l'emotional hardcore, c'est quelque chose qui était assez populaire dans les années 2000 et puis qui est ensuite un petit peu dissous, un petit peu mort, hein, puisque devenu parfois soit trop cliché, soit trop commercial, soit tout simplement les mots de passe, et ça n'intéresse plus tant les gens que ça. Et en fait, The Wave, donc ce collectif de 5 groupes, ont fait un petit peu revivre par leur influence l'emo, puisqu'il y a juste après eux, donc eux c'était les années 2010, pour situé, eh bien en fait autour de 2015, 5 ans plus tard, il y a la seconde vague d'emo qui est moi personnellement une vague qui me fascine et, que, et dans lequel j'écoute beaucoup d'artistes qui font partie de cette seconde vague, eh bien cette seconde vague démo est apparue en 2015 et a atteint son paroxysme en 2015 grâce en grande partie à The Wave qui ont fait renaître l'intérêt pour un type de hardcore, un type de musique alternative qui est beaucoup plus émotionnel, voilà, qui n'a pas du tout de problème à cracher un petit peu cracher un peu toute la voilà tout le malheur et toute la mélancolie qui bouillonne au fond des chanteurs de ces groupes et des artistes de ces groupes. Et l'emo se base entièrement sur ça. Donc on va s'écouter tout de suite Defeater, donc eux qui font partie, comme je le disais, du cousin du emo, le Melodic Hardcore, et on va entendre tout de suite dans la voix du chanteur qu'il y a ces émotions, ces sentiments en fait qui sont dégagés, qui sont exacerbés par cette musique. C'est absolument incroyable. On s'écoute ça tout de suite, Defeater avec le morceau Bastards sur Radio Libertaire. Defeater, donc le deuxième groupe de ce mouvement The Wave. Alors, pour d'ailleurs, c'est vrai que je ne les ai pas tous cités, mais en fait, pour l'instant, on a écouté La Dispute et Defeater, donc deux des cinq groupes. Les autres groupes qui font partie de ce mouvement sont Make Do and Mend, Pianos Becomes the Teeth, et enfin Touché Amore, qu'on écoutera en fin d'émission, puisque c'est peut-être l'un des groupes les plus connus de ce micro-genre. The Wave, c'est quelque chose qui, en fait, s'est décidé sans se décider, c'est-à-dire que ces cinq groupes ont un peu créé ce collectif informel. À aucun moment ils se sont dit on va créer un collectif qui va influencer le monde de la musique. Évidemment, ça ne se fait jamais vraiment comme ça, c'est plutôt par sérendipité que ça arrive. Toutefois, c'est vrai que ils viennent d'un peu partout des États-Unis et pour autant ils avaient tendance à tous se faire tourner les groupes les uns des autres, c'est-à-dire que quand l'un jouait, eh bien ça invitait l'autre en première partie chez soi et inversement chez l'autre, et voilà. Donc en fait il y a vraiment un espèce de petit cercle assez soudé qui s'est créé, et donc c'est un peu de là que le public et les critiques se sont dit, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a un mouvement qui est en train de se passer là entre ces cinq groupes qui ont l'air de créer quelque chose, de recréer quelque chose. Et c'est ce qu'on entend tout à fait avec Defeater. Donc Defeater, ils sont revenus avec leur mélodie hardcore qu'on vient d'entendre un petit peu plus à la base du genre, quelque chose de plus violent, de voilà, un peu un petit peu moins, on va dire, complexe et léché que typiquement on le serait La Dispute, mais Defeater ont décidé de revenir à une base du mélodique hardcore pour pouvoir explorer le côté narratif du truc. Parce que comme je vous le disais, tout le truc de The Wave et de cette New Wave du post-hardcore, eh bien c'est que il fallait que ce soit des sujets avec de l'émotion, il fallait parler de choses dures, il fallait en fait presque expier un petit peu d'une certaine manière, voilà, toute sa rage, mais aussi tout son mal-être à travers cette musique. Et pour le coup, Defeater sont un groupe concept. Alors, vous connaissez peut-être les albums concept, un album qui raconte une histoire, un album qui s'écoute du début à la fin, puisqu'il y a une cohérence et une narrative qui se suit. Eh bien, Defeater, c'est un groupe qui, dans tous ses albums, crée à chaque fois une histoire. Et typiquement, c'est le cas de groupes un peu plus récents. Il y a un groupe très connu qui s'appelle 21 Pilots qui fait exactement cette même genre ce même genre de concept. Mais Defeater, eh bien, faisait déjà ça avant, et pour le coup, Defeater, eh bien, c'est une histoire assez dure, puisque comme je l'ai dit, c'est toujours des sujets durs dans cette vague du post-hardcore. Et Defeater, en fait, raconte l'histoire d'une famille dysfonctionnelle américaine, et chaque album se concentre sur un membre de cette famille. Et donc, là, l'album que je vous passe, c'est le troisième album de Defeater, Letters Home, il s'appelle. Et en fait, cet album se concentre sur le père, donc le père qui est une personne violente, alcoolique, qui a été traumatisée par la guerre dans le Pacifique, par la Seconde Guerre mondiale, et dans le Pacifique, il y a eu son meilleur ami qui est mort d'ailleurs, qu'il a vu son meilleur ami, son frère et meilleur ami qui est mort dans le Pacifique. Et du coup, c'est un petit peu mettre une loupe sur son histoire à lui, que ce soit son histoire de l'époque pendant la guerre, de souligner les dégâts sur la psyché humaine que font la guerre, hein, c'est un album qui est fondamentalement antimilitariste, mais également de montrer comment le traumatisme avec le temps peut créer des personnes brisées qui donc infligent aux personnes qui l'entourent des choses affreuses. Donc voilà, c'est des thèmes qui sont très très durs, mais pour le coup qui sont très profonds et très intéressants. Et en fait, plus on écoute les albums de Defeater et plus on comprend que tout s'entremêle, puisque on fait à chaque fois évoluer un petit peu ce portrait de famille en rajoutant à chaque fois un membre de la famille différente. Donc on va s'écouter le morceau d'après de Defeater. Même se mettre deux petits morceaux de Defeater avant de passer au troisième et dernier groupe, parce que je n'ai malheureusement pas le temps de faire les cinq groupes de The Wave, donc je vais faire trois des groupes qui m'ont marqué. Le troisième groupe que je voudrais passer, c'est Touché Amore, voilà, qui est un groupe qui a beaucoup influencé toute une génération. Mais avant ça, on se réécoute Defeater sur Wildside 89.4.
I'll say one more sunrise.
De Feater donc avec Hopeless Again et juste avant Dead Set, ce superbe album Letters Home que je conseille profondément, même s'il est toujours intéressant d'écouter toute la discographie, puisque comme je l'ai dit, il y a un concept qui suit cette discographie, et pour le coup je pense que l'effet est d'autant plus frappant quand on apprend l'histoire de la famille en partant du début de la discographie, qu'on considère ce père comme un personnage bien maléfique en vrai, hein, tout simplement, un personnage mauvais, profondément mauvais, et quand on écoute Letters Home, eh bien on comprend tout simplement que tout cela vient de traumatisme, hein, c'est simple, c'est que c'est une personne qui est fondamentalement brisé et on comprend pourquoi c'est une personne aussi, aussi horrible. Donc voilà, Defeater, c'est le deuxième groupe dont je voulais parler, de The Wave. Et le dernier groupe dont j'aimerais parler, c'est un groupe qui me tient beaucoup à cœur, c'est un groupe qui tient beaucoup à cœur de beaucoup de personnes, c'est Touché Amore. Touché Amore, donc encore un autre groupe américain, parce que ce sont tous les groupes de The Wave sont des groupes américains. Touché Amore, c'est un autre groupe américain qui a énormément influencé le mouvement. Alors quand je dis que l'emo est revenu à la mode, les membres de The Wave ne font pas particulièrement de l'emo, dont Touché Amore, c'est du post-hardcore, c'est pas de l'émo. Mais je pense que dans la manière de s'exprimer, dans la manière d'avoir une sincérité, d'être très premier degré dans ses paroles et de ne pas se cacher, de ne pas être dans le paraître, de ne pas non plus essayer de gonfler un petit peu ce qu'on essaye de raconter, de toujours rester très, très terre à terre et très sincère, je pense que c'est ce qui a énormément inspiré justement la seconde vague d'émo qui a entendu ça et qui l'a ressenti, qui a réussi à s'identifier en fait à ses sentiments et à créer ce genre par la suite. Et on va entendre que Touché Amore, eh bien c'est un groupe justement, notamment son chanteur. Alors le groupe évidemment musicalement est toujours dans la même mouvance que le reste de The Wave, mais son chanteur particulièrement est très, comme je le disais, très sincère, très authentique dans ce qu'il raconte. Il parle de lui-même, il parle de ses expériences. Le premier morceau, d'ailleurs, qu'on va écouter en premier, qui s'appelle Just Exist, c'est un morceau où il commence par dire qu'on lui a un jour posé la question « Comment est-ce que tu voudrais qu'on se rappelle de toi une fois que tu seras parti ?» Et il parle du fait que, bon, eh ben, il a dit qu'il préférerait ne jamais partir et qu'il trouvait que c'était une réponse extrêmement cliché et qu'en y réfléchissant, lui, il préférerait partir par la petite porte parce qu'il pense que malgré le succès de son groupe, il mérite un peu comme tout le monde de sortir par la petite porte. Enfin voilà, c'est beaucoup de réflexions personnelles sur ce qu'il ressent, de réflexions aussi sur ce qu'il représente dans le paysage musical et le paysage culturel, on va dire, alternatif, du métal alternatif et du rock alternatif. Voilà, c'est très sincère, c'est très authentique, moi c'est tout ce que j'aime. Et on va s'écouter tout de suite Just Exist, donc de Touché Amore, sur l'album Is Survived By, sorti en 2013. On s'écoute ça et on se retrouve juste derrière.
I was once
Et voilà, Touché Amoré, donc un petit extrait de ce superbe album avec Just Exist. Donc voilà, il y a une réflexion que je trouve fascinante où il le dit, hein, les paroles littéralement se traduisent par laisser sa trace, c'est beaucoup, beaucoup me demander, quoi. Donc il y a une réflexion. Alors je ne sais plus si je l'ai mis dans la playlist que j'avais choisi, mais le morceau qui suit, qui s'appelle To Write Content, parle littéralement du procédé d'écrire, de réussir avec ce troisième album, réussir enfin à s'exprimer comme il le souhaiterait, à ne plus être dans le paraître. Voilà, c'est une espèce de mise en abîme où il est littéralement en train de parler de l'album qu'on est en train d'écouter, de ce qu'il voudrait faire avec cet album qu'on est en train d'écouter, et ce qu'il n'a jamais réussi à faire par le passé, ce qu'il aimerait pouvoir plus débloquer dans son procédé créatif dans le futur. Enfin voilà, c'est une fenêtre dans son âme, quoi. Et moi, ça me touche énormément, et je pense que ça représente absolument tout ce que The Wave souhaitait faire, ce petit collectif informel, en disant dans le screamo, dans les mots de manière générale, il y a un manque de sincérité, il y a un manque d'authenticité, et je trouve que Touché Amoré arrive exactement à toucher cette corde-là, en particulier cette corde de la sincérité, et c'est pour ça que ça a parlé à énormément de monde, quoi. Donc on va s'écouter le morceau d'après, et puis nous arrivons très bientôt à la fin de l'émission, mais on a encore deux petits morceaux de Touché Amoré sur cet album Is Survive By à s'écouter. Et on va s'écouter tout de suite l'un de ces deux morceaux, et on se retrouve juste derrière. Donc voilà, Arbor de Touché Amoré sur cet album Is Survived By. Et donc, si je parlais un petit peu du fait qu'ils ont été très influents pour finir cette petite chronique, eh bien, c'est parce que les mots qu'ils ont inspirés, la seconde vague des mots qu'ils ont inspirés, aujourd'hui est un peu le socle, la fondation de énormément de la musique alternative. La musique alternative actuelle est très 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 inspirée du mouvement emo des années 2015. Et donc, eh bien, on peut dire que ce petit collectif informel de 5 groupes eux-mêmes ont inspiré cette seconde vague d'emo. Donc, c'est un peu les précurseurs de tout ça. Et il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui n'existeraient pas sans The Wave, The New Wave of Post-Hardcore, et qui doivent énormément à ces 5 groupes. Et on va donc terminer avec le morceau Nonfiction sur cet album de Toucher Amouré pour clore cette chronique. Et on se retrouve bien, non pas au mois d'août, mais à la rentrée scolaire, donc au mois de septembre pour la prochaine émission de Wildside. Et en attendant, eh bien, merci d'avoir suivi ces interviews et cette chronique sur Radio Libertaire, Radio Libertaire 89.4. Je vais y arriver, c'est la chaleur, ça me fatigue, j'ai du mal à parler. Eh bien, on se quitte sur Nonfiction de Toucher Amouré sur l'album de 2013 et on se dit à septembre.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Jamais les singes rouges ne croiront aux civilités des chiens meurtriers, ni des chiens polissés, maquillés, ripollinés.
Les petits au matineux sont déjà par les chemins. Et dans le mallette, de grosses toiles bleues qui dansent et se berlancent en le tapant le cul, ils portent des livres à côté de le pain. Le matin, elle jolie comme 36 sourires. Le soleil est doux comme les yeux des bêtes. La vie ouvre au ptio son grand livre sans lettres, où ce qu'on peut apprendre sans la peine de lire. Oh, les pauvres ptio livres que se démalettent. La moisson est mûre et les blés sont blonds. Ils penchent vers la terre comme les tâcherons qui les ont fait venir et les abattront. Ça sent la galette au fournil des riches. Et sur la route passent des tireux de pieds de biche. Les chiennes de troupée qui vont au pâti. Les moutons itou et les messes barbies frayent et s'enterlichent au long des brémailles, malgré que les bargers se soient un bouqui, un soir d'assemblée pour une garça. Dans les haies d'aubier, quand sont roses et blanches, les moigneaux s'accouplent à tout bout de branche, sans se douter que les hommes se marient devant le maire. Et il s'égosille à quérir au drôle l'amour que l'on rechigne des livres de l'école, quasi comme une chose qui serait pas à faire. À l'orée du bois, il se trouve une grande croix, mais les peupliers sont plus grands dans le bois. Il faut seyer en cave un mort sous une pierre. On baptise au bourg, les cloches sont claires, et les vignes poussent vertes sur l'ancien cimetière. Oh, les pauvres ch'tiolives que ce des mallettes sont sement pas foutus de vous entrer en tête. Et dans ce ticket-là, y a de quoi s'emplir le cœur. À s'en emplir le cœur, on deviendrait des oums, ou méchants, ou bons, n'importe ben coum, mais vrai. Comme la terre, en friche ou en fleurs, le soleil qui fait vivre ou la foudre qui tue, et franc, aussi franc que la franche nature. Les ptios marchaient de leurs petites pattes si bas qu'au-dessus des lopins de seigle et de luzarne, grise comme une prison, haute comme une caserne, l'école est devant eux qui le bouche le chemin. Le maître d'école les fait mettre en rang d'oignon et vira le tête comme un général. En retenue là-bas, c'est qui pivote mal. Ça, c'est pour le cougner au métier de troufion. On rentre dans la classe, où ce qu'il n'y a plus de bon Dieu, on l'a remplacé par la République. De dessus sous une estrade, le maître les explique ce qu'on y a expliqué quand il était tout comme eux. Il le compte en bio, les tueries de l'histoire. Et les ptios n'entendent que gloire et victoire. Il dit que le travail, c'est la liberté, que le peuple est souverain puisqu'il peut voter. Que les lois qu'instrumentent nos bons députés sont respectables et doivent être respectées. Qu'il faut payer l'impôt. Monsieur, j'ai envie... Non, parce que ça vous arrive trop souvent. Il veut démontrer par là aux enfants qu'il y a des règles pour même pour les